ces gens qui font la différence avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Maître Jean-Pierre Ménard, avocat et spécialisé en santé associé de l'étude Ménard-Martin de Montréal. Depuis plus de 30 ans, Maître Jean-Pierre Ménard défend les usagers du système de santé et traque les erreurs médicales. Son cabinet emploie une quinzaine d'avocats, plus d'une quinzaine je dirais, qui s'occupent de près de la moitié des poursuites intentées en responsabilité médicale et hospitalière devant les tribunaux québécois. Maître Ménard ne défend pas que ses clients, et il intervient régulièrement sur la place publique afin de défendre l'intérêt de tous, mais surtout les plus vulnérables face au système de santé. C'est sans doute pourquoi il est surnommé l'avocat de la santé par les médias québécois. Maître Ménard a reçu plusieurs distinctions et récompenses pour son engagement dans la défense des personnes vulnérables, dont notamment le prix Orange de l'Association des groupes d'intervention et de défense des droits en santé mentale. En 1999, la personnalité de l'année de l'Association québécoise d'intégration sociale en 2000, il s'est vu décerner en 2009 la distinction d'avocat émérite par le barreau du Québec. On le reçoit tout de suite après. Maître Jean-Pierre Ménard, honoré de vous recevoir aujourd'hui.
L'honneur est pour moi.
Un grand défenseur. Quand vous entendez les prix, les distinctions, qu'est-ce que ça vous fait?
Ben écoutez, d'abord, on ne fait pas ce travail-là pour avoir des prix. Tant mieux si on a, c'est comme une tape dans le dos qu'on reçoit. Ça nous rassure un peu peut-être parfois sur la justesse ou la propos de ce qu'on fait. Mais ce qu'on voudrait, c'est que c'est ceux au profit de qui on le fait qui gagnent des prix. C'est ça qui serait important au bout de la ligne aussi. On veut que, finalement, ce qu'on fait bénéficie à tout le monde. Alors, tant mieux quand c'est apprécié. Mm-hmm. Mais disons que c'est pas le but de ça. Mais
c'est pas le but.
On les prend quand ça passe. Mm-hmm.
Alors, toute une vie, toute une carrière, 30 ans de droit qui s'est dirigée vers le médical, la défense de ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas beaucoup de voix, mais qui veulent vraiment se faire entendre. Est-ce qu'en petit... est-ce que vous aviez déjà l'envie d'être avocat? Ça ressemblait à quoi, votre enfance?
Ben écoutez, moi, j'ai une enfance qui était, je dirais, dans la moyenne. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, je suis né à Péribonka, au Lac-Saint-Jean, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, et dans une famille de 4. Alors, on a eu une bonne vie dans le sens suivant, c'est qu'on n'avait pas d'aisance financière, mais on ne manquait pas de rien. Autrement dit, il y avait de quoi manger tous les jours. Nos parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour nous... bien prendre soin de nous autres aussi. On jouait beaucoup avec mes cousins et cousines, dont on était plusieurs familles qui étaient proches l'une de l'autre aussi. Alors, c'est ça. Et puis, à l'époque, c'était le Québec des années... la fin des années 50, début des années 60. Moi, je suis le premier descendant mâle de la famille. Alors, la tradition, c'était de donner celui-là au bon Dieu. Alors, moi, on m'orientait beaucoup vers la prêtrise.
Ah oui?
Oui, alors j'étais au séminaire. Mm-hmm. Aussi, on m'avait même, maintenant, les prêtres me prédisaient une longue carrière de missionnariat. Dieu ferait de moi un missionnaire. Alors, j'étais orienté vraiment dans cette idée-là, jusqu'à l'adolescence où mes chemins ont... c'est-à-dire, il s'est ouvert de nouveaux chemins, entre autres la connaissance du genre féminin, un peu plus. Et là, la prêtrise s'est éloignée comme projet de vie.
Bon.
C'est ça. Alors,
mais il l'a déjà été ou pas? C'était
écoutez,
plutôt le souhait de vos parents?
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je baignais là-dedans. Là, j'étais inondé. Écoutez, je me rappelle à l'époque, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, j'avais tout un équipement pour dire la messe.
Genre,
j'avais un petit hôtel, des vêtements de prêtre. Puis le jeu avec mes cousins et cousines, c'est moi, je disais la messe.
Alors, c'est intéressant.
On jouait à la messe.
Okay.
Alors, pour vous dire à quel point ça baignait. Mon parrain était un prêtre. Alors, voyez-vous, je baignais vraiment dans cet univers-là, très croyant, très... où l'Église avait... Puis c'était l'époque aussi la société, où l'Église avait une emprise très, très forte sur la société. Tout était régulé par l'Église aussi.
Éducation, santé, tout ça.
J'étais dans un village, un petit village. Alors, donc, éducation, santé, famille, c'est l'Église.
Même ils prêtaient de l'argent, les prêtres,
En plus, puis ça, c'est l'Église qui décidait, qui refusait de confesser nos mères parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants, puis ce genre de choses-là. Là. Alors, donc, c'était une Église donc très, très, très rigoriste, très stricte.
Ouais.
C'est ça. Alors, donc, à l'adolescence, surtout à la fin, quand je suis rentré au cégep et tout ça, bien, évidemment, ces idées-là se sont un peu mais évanouis, si on veut, vers peut-être la recherche de la remise en question peut-être d'un cadre aussi rigide, puis peut-être la recherche d'une vie plus libre, d'une vie où on peut penser plus librement, une vie où on peut concevoir les choses peut-être autrement aussi. C'était dans tout courant chemin des années 60, là. Alors, 78, 79, 70, 72, dans ces années-là, là, au large, je me suis retrouvé au cégep dans ces années-là. Et c'était vraiment des années donc, de grande remise en question au niveau de la société. Puis j'étais jeune, donc très perméable à toutes ces idées-là. Alors, on se fait évidemment de grandes idées parce qu'on est jeune, on veut changer le monde.
Oui.
Puis c'est là que l'intérêt du droit est apparu aussi. J'ai jamais vraiment considéré...
Pour la justice, plus, à l'époque, c'était plus...
Une certaine idée de la justice.
Ouais, on est un là, équilibre.
On est là parce qu'on trouve qu'il y a plein d'affaires qui ne marchent pas, plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens, plein d'affaires qui ne sont pas justes. Fait qu'on se dit, bon, ben quand on est jeune, on rêve évidemment de changer la face du monde. Alors, on se demande où est-ce qu'on peut intervenir pour redresser des torts, tu sais, et comment on peut le faire. Puis c'est clair que la profession d'avocat apparaissait haut dans la hiérarchie des possibilités pour ça.
Donc vous vous dirigez là-dedans, mais il y a une espèce de un missionnaire qui reste là, mais pas le côté prêt, le côté peut-être justicier plus.
L'idée peut-être de changer les choses, de vouloir influencer les choses, puis l'idée de voir ce qu'on est capable de faire pour, sans sublimer tout ça, là, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire pour avoir un monde un petit peu meilleur.
Un petit peu meilleur.
Un petit peu.
Alors, vous allez... Parce que, bon, vos parents, les deux, à l'époque, hein, c'est rare, les deux travaillent. Votre père est camionneur, votre mère aussi travaille.
Ma mère était... C'est-à-dire, je suis arrivé à Montréal à l'âge de 11 ans. Alors, là, ma mère travaillait beaucoup à Lac-Saint-Jean aussi. Elle faisait toutes sortes de choses. Elle tenait la caisse, avait un petit magasin de tissus, etc. Là. Mais, arrivé en ville, ma mère est devenue préposée aux bénéficiaires. Et mon père, qui était camionneur, travaillait à la construction. Il y avait des grands chantiers à Montréal à l'époque. Moi, je demeurais sur le bord du pont-tunnel de la Fontaine qui était en construction. J'ai vu construire ça. Mon père, il travaillait. Et c'est ça. Alors, donc, j'avais donc des parents, les deux parents travaillaient. Moi, je viens du milieu ouvrier. J'ai grandi dans l'Est de Montréal. Alors, j'ai toujours été dans l'Est tout le temps. Et c'est ça. Alors, donc, encore ici, les parents travaillent. On fréquente l'école. Bon, c'est ça, puis là, je rentre au cégep, puis là, je vois ces idées-là, ces grands courants qui circulent là, aussi, là, où tout est remis en question, tout est... autant l'Église, la famille, la culture politique traditionnelle, puis j'étais très perméable à ces idées-là aussi.
Quand vous voyez votre mère comme préposée aux bénéficiaires, est-ce qu'elle vous raconte ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un petit éveil à ce niveau-là?
Non, non, ça n'a pas vraiment de lien, non? Parce que ma mère, d'abord, écoutez, était une préposée aux bénéficiaires qui travaillait dans un hôpital psychiatrique. Louis H. Lafontaine, à l'époque, qui s'appelait Saint-Jean-de-Dieu. Bon, ma mère est une personne de cœur, est une personne qui s'est toujours bien occupée des patients, mais ma mère n'a jamais traduit l'idée que les patients étaient maltraités. Ma mère n'aurait jamais maltraité l'homme d'un début de commencement de quoi que ce soit. Alors, donc, je n'avais pas la perception à travers ma mère que les gens n'étaient pas bien traités. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Dans mon cheminement.
Comment ça se passe, les études? Donc, vous rentrez en droit. C'est clair que vous voulez défendre, que
alors,
vous choisissez ça.
J'étais au cégep Maisonneuve. Après ça, j'ai été 2 ans sur le marché du travail. j'ai peut-être perdu un petit peu le fil. Et je me suis inscrit à l'université dans un programme qui m'apparaissait particulièrement intéressant, le programme des sciences juridiques de l'Université du Québec. Programme nouveau, programme de droit qui était nouveau. C'était seulement la deuxième année où on a mis les étudiants à l'UQAM. Et toute la philosophie de base du programme me séduisait beaucoup. On disait, écoutez, nous ici, on veut former des juristes un peu différents de ce que les universités traditionnelles forment. On voulait former, puis c'était le discours de l'époque, un juriste d'un type nouveau qui allait travailler à répondre à des besoins que la pratique traditionnelle ne répondait pas, ou la pratique du droit devait être orientée vers la satisfaction de besoins de l'ensemble de la population et non pas de besoins particuliers des grandes corporations.
Donc,
des grandes
entreprises. Plus sociale, finalement.
Une pratique beaucoup plus sociale, beaucoup plus aussi en phase avec les besoins des citoyens. C'est vraiment une pratique plus citoyenne, si on veut aussi. Ça me séduisait beaucoup. Et je suis rentré en sciences juridiques comme ça. J'ai beaucoup aimé le programme. Après ça, après mes sciences juridiques, je me suis inscrit tout de suite à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et j'ai fait mon école du barreau l'année d'après.
C'est quoi la différence entre les deux universités? Comment vous avez trouvé les...
À Montréal, c'est beaucoup plus traditionnel, si on veut aussi. Je parle au niveau du premier cycle. Le deuxième cycle, c'était plus intéressant. Mais au niveau du premier cycle, c'était plus traditionnel. Puis c'était aussi une pratique orientée davantage, pas exclusivement, mais davantage vers les grands bureaux, vers un type de discours qu'on entend même encore aujourd'hui, là, tu sais, l'Ise Money,
ouais.
qu'on entend encore beaucoup dans les universités parce que les grands cabinets ont vraiment des liens très, très rapprochés avec les universités. Puis on représente malheureusement trop souvent aux étudiants que la pratique du droit, bien, c'est ça ou rien. Alors qu'il y a toute autre chose.
Alors, si je comprends bien, votre idéologie était plus à l'UQAM, votre façon de penser.
Je me sentais bien avec comment ça se passait à l'UQAM. Mais évidemment, c'est une pratique qui était, c'est une formation qui n'était pas non plus tout à fait axée sur le barreau puis sur une pratique traditionnelle aussi. Alors, évidemment, ça faisait un décalage. Et c'est ça. Alors, donc, après l'école du barreau, ben, c'est là que j'ai décidé vraiment. C'est là, j'ai fait un stage d'un an à la Cour d'appel, que je trouvais bien intéressant, mais j'avais envie de plus d'action. Alors, là, j'ai ouvert mon cabinet en 81.
Et c'était plus, vous étiez plus généraliste au début. Ben, hein? Dans la pratique, la pratique généraliste, il n'y avait pas vraiment de...
Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut avoir un peu le contexte des années 80, début des années 80. D'abord, la publicité est interdite aux avocats. On peut s'annoncer comme avocat, point. Un avocat, c'est bon dans tout, ça sait tout faire. Alors donc, c'était défendu d'annoncer quelques spécialités que ce soit. Alors, donc, c'est par le bouche à oreille que j'ai fait savoir dans toutes sortes de milieux. Ben, moi, j'aimerais ça faire du droit de la santé, ça m'intéressait. Faire du droit de la santé.
Mm-hmm.
Mais j'avais vraiment mon cabinet. Puis au début, bien évidemment, il faut vivre aussi. Alors, on prend un peu toutes sortes de choses. Puis j'ai eu mon premier cas de responsabilité médicale. C'était mon cinquième cas, je me rappellerai toujours. Et là, j'avais été sidéré de voir la disproportion qu'il y avait entre les patients et les médecins. J'avais en face de moi un excellent avocat qui connaissait bien le système de santé, qui faisait que ce genre de droit-là, qui n'avait pas de problème pour avoir des experts, pas de limite en termes financiers.
Mm-hmm.
Donc, tous des difficultés que les patients ont. En fait, dès ce moment-là, j'avais décidé, bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si c'est faisable, de développer une offre de services juridiques qui va essayer de rééquilibrer un peu ça, qui va faire que les patients puissent avoir des avocats qui connaissent à fond le système de santé, qui font que ça, qui ont accès à des experts de qualité, de compétences suffisantes pour pouvoir faire un ensemble des dossiers, et puis dans un cadre financier qui va rendre ça accessible.
Alors, on va revenir là-dessus parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait, et les auditeurs, le fait d'avoir choisi la santé. Mais avant, vous savez qu'à l'émission, vous choisissez vos chansons et il y a toujours un pourquoi. Vous avez choisi Vincent Vallière, On va s'aimer encore. Pourquoi?
Ben écoutez, moi, je suis en couple depuis longtemps et c'est bien des fois de s'apercevoir que notre relation de couple, puis les sentiments qui l'ont généré sont toujours là et seront toujours là, possiblement. Et quand on écoute une chanson comme ça, ça donne à la fois une certaine nostalgie, mais un certain plaisir aussi de voir qu'on a fait beaucoup de choses, pas encore beaucoup devant nous. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson-là.
On l'écoute.
Des pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort on va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers. travers de la route et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups au travers des déboires à la vie à la mort on va s'aimer encore complètement démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore. Au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en santé. Et si je dis que la moitié des causes médicales de la province, c'est vous qui les défendez, c'est tout à fait ça.
Tout à fait, un petit peu plus, même.
Même un peu plus, ouais. Hein. Alors, c'est tout à votre honneur. Vous avez ouvert votre cabinet en 1985 avec votre épouse, ouais. Denise Martin. Donc, et toujours... La santé. Moi, je veux comprendre pourquoi vous êtes dirigé et comment, qu'est-ce qui vous... À l'époque, bon. on va vraiment en arrière, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez dit, bon, ben, ça y est, moi, je me spécialise en santé?
Comme je disais, donc, dès 80, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai eu une première cause, puis une deuxième, puis une troisième. Et c'était de voir la disproportion qu'il y avait entre les moyens des patients et les moyens des médecins et des hôpitaux pour se défendre. Mm-hmm. Et en termes de défis, je me suis dit, bon, ben ça, c'est pour moi. Alors, on va travailler à rééquilibrer. Les droits des patients face au système de santé. Oui. Alors, on va travailler donc à offrir aux patients des services et une expertise comparable à ce que les gens auront pour se défendre. Et on s'aperçoit par ailleurs... Bon, alors, au début, c'était ça qui était l'intention. Et on a commencé comme ça, alors, par la bouche à oreille. Voyez-vous, partir de 87 à peu près, je faisais à peu près juste ça. Mais à l'époque, là, donc, autrement dit, j'avais éliminé graduellement mes autres champs de pratique. Là. J'étais capable de vivre juste de ce type de cause-là. Et là, on a continué à grossir. Puis donc, on avait de plus en plus de dossiers. Alors, en 85, Maître Martin est venu me trouver. Après ça, on a commencé après ça, à engager un autre avocat, et un autre, et un autre, et un autre. Bon. On s'était passé à un moment donné qu'on avait un volume peut-être au quart, à peu près, des poursuites de la province, des années 90, là. Et là, on s'est aperçu qu'on avait un volume suffisant pour avoir l'impression qu'on influençait un petit peu le système de santé.
Fait que là, on commençait à avoir peur de vous, autrement dit.
Pas, je ne sais pas, mais on s'est aperçu, on s'est aperçu que ça commençait à avoir de l'impact. Uh-huh. On s'est aperçu aussi qu'à travers les causes qu'on faisait, on avait un point de vue un peu privilégié pour voir les dysfonctionnements du système. Ouais. Oui. Alors là, on a décidé peut-être de structurer un peu plus cette pratique-là pour l'orienter un peu plus socialement. Mm. Donc, pas la faire à l'américaine, là, pas tirer sur tout ce qui bouge, pas faire la course au million. C'est pas l'optique de ça. Mais donc, de l'orienter plutôt vers... Parce que ce que cette personne nous permet de découvrir, c'est les dysfonctionnements du système. Oui. Puis donc, à travers les causes qu'on fait, on s'est dit, est-ce que ces causes-là peuvent contribuer à réduire ces dysfonctionnements-là? Alors, on a donc développé trois grands objectifs de cette pratique-là pour l'orienter socialement. Donc, c'est une pratique qui fait la promotion de l'accessibilité des soins, oui. De la qualité des soins, de la sécurité des soins. Alors, donc, à travers les causes qu'on fait, on s'aperçoit que à travers différentes causes qu'on fait, ça soulève ces problèmes-là. On s'est dit, avec les poursuites, ça crée une pression sur le système de santé suffisante pour que le système soit incité à essayer de corriger ces situations-là.
Et toujours donner les droits, donner la justice aux personnes les plus vulnérables. Et dans ce sens-là, vous allez vous installer là où vous êtes encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans Hochelaga-Maisonneuve, pour dire, ben voilà, au coin de Villot, pour dire, voilà, tout le monde, nous, on est accessible. Les tarifs aussi ne sont pas vraiment fous de l'heure.
C'est pas les tarifs des grands cabinets. D'abord, juste pour clarifier aussi, c'est que ce qu'on a fait en responsabilité médicale, ça nous a donc permis de bien réussir. Mm-hmm. On s'est dit avec ça, par ailleurs, ça nous a permis de s'apercevoir aussi que dans le système de santé, même si a priori tous les citoyens sont égaux face au système de santé, on s'est aperçu qu'il y en a qui étaient beaucoup plus égaux que d'autres, puis d'autres beaucoup moins égaux que d'autres.
Ouais.
Alors on s'est dit, on va s'occuper
par
de ceux
qui... Par rapport au portefeuille, la grosseur
du
portefeuille.
On va s'occuper de ceux qui sont moins égaux. Alors on s'est aperçu que le système de santé ne traitait pas bien, pas comme ça devrait, être certaines clientèles. Là, on va penser aux personnes âgées, aux personnes avec des problèmes de santé mentale, personnes déficientes. Alors, on s'est orienté vers ces groupes-là, vers ces milieux-là. Puis, on ne manquait pas de travail. On en a eu plus qu'on voulait en avoir aussi. Et parce qu'on s'est aperçu que ces gens-là avaient des besoins importants par rapport au système de santé. Puis, le système de santé ne répondait pas bien. Alors, on s'est dit, nous, on va travailler à ce que le système de santé améliore la réponse, prenne davantage compte des besoins de ces personnes-là, les traite davantage comme on devrait traiter tout le monde. On ne demande aucun traitement privilégié, mais qu'on traite une personne qui a même de santé mentale, une personne âgée, comme n'importe quel autre citoyen dans le système de santé. Aussi, que les gens ont des droits, qu'on respecte ces droits-là aussi. Alors, on s'est dit, on va donner les moyens dans toutes les situations où les droits de ces citoyens-là sont lésés, que les gens soient capables de faire des recours, soient capables d'obtenir justice. Quand je parle d'obtenir justice, là, c'est que, moi, je pense que je fais le plus beau métier du monde. La justice avec un grand J, elle est dure à obtenir, mais on est capable d'obtenir, pour la grande majorité des gens, l'idée qu'une certaine justice a été faite, une certaine forme de réparation a été faite, une certaine forme d'admission a été faite aussi. C'est qu'on a découvert au fil des années pourquoi les gens venaient nous voir. T'sais, ça a pris du temps. Puis
Et pourquoi?
Il y a quatre raisons. La première, d'abord, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Trop souvent, le système est trop silencieux là-dessus, on ne dit rien aux personnes. Mais les trois autres sont importantes, surtout les deux qui suivent. Il y a une question d'imputabilité. Les gens disent, écoutez, ça n'a pas d'allure, moi, je n'ai pas été traité comme il faut. Je veux que les gens sachent qu'ils ne m'ont pas bien traité. Là, je veux qu'ils sachent qu'ils ne m'ont pas bien traité. Puis ça amène un peu la troisième aussi. Je vous dirais que c'est la prévention. Puis ça, c'est un facteur puissant chez les citoyens. C'est les gens, par exemple, qui ont perdu un bébé en accouchant, qui ont perdu un conjoint là, après une mauvaise opération. Écoutez, l'argent ne me donnera pas mon conjoint, mais au moins si je peux sauver la vie à d'autres. Puis ça,
c'est ça, pour le futur, finalement.
Il y a une très forte pression altruiste.
Ouais.
La quatrième, c'est la question de la compensation. Puis je vous dirais que dans l'ordre, là, c'est généralement le motif le moins fréquent. OK, les gens...
Vous l'avez mis en dernier.
Oui, puis je l'ai mis en dernier, puis c'est vraiment ça. Moi, ce que je veux dire, écoutez, ça fait plus qu'un peu plus de 6000 causes que je fais dans ma carrière de responsabilité, donc j'en ai vu du monde.
Parce que c'est ça, c'est contention, c'est des erreurs médicales, c'est tout ça, les victimes.
Ce qui arrive, c'est qu'on voit de tout. Toutes les choses. Il arrive, au début de ma pensée, je me disais, ça se peut pas, les gens me comptent des histoires, plus maintenant.
C'est des histoires d'horreur.
Tout arrive.
Ouais.
Et puis malheureusement, ce qui est choquant, c'est de voir les choses qui se répètent.
Ouais.
On a généré en 2002 un important changement dans les lois. Qui touche entre autres toutes les questions de la sécurité des soins.
Oui, ça, c'est une victoire à vous, là. En 2002, vous avez porté
Je vous dirais que c'est un de nos acquis de carrière important
parce qu'on
a fait changer les lois pour prévoir la déclaration obligatoire des incidents, la divulgation aux patients, les mises sur pied de comité de gestion de risque. C'est comme ça qu'on sait qu'on a un peu plus de 500 000 incidents dans le système de santé chaque année au Québec. C'est important.
Des archives qui sont très, très importantes.
Et on vient enfin de commencer à faire des campagnes de prévention pour réduire le risque d'accident. Pour moi, je trouve ça inacceptable qu'une personne soit malade de ses soins. Le processus de soins, il faut qu'il soit sécuritaire. Il ne faut pas qu'il contribue à faire mourir les gens ou à rendre les gens plus malades ou à générer des complications que la maladie initiale n'aurait pas générées.
Au début, vous avez dit de l'entrevue, c'était un peu difficile. C'était un petit peu comme David contre Goliath. Est-ce que là, vous sentez que finalement, toutes les plaintes, vous avez eu 6000 cas... Est-ce que ça remonte la pente? Est-ce qu'il y a un peu plus de respect?
Écoutez, aujourd'hui, on peut dire qu'au Québec, le patient qui veut poursuivre un médecin, il va avoir accès à un niveau d'expertise juridique tout à fait comparable à ce que les médecins, puis, pour se défendre, là. Bon, nous, on pense qu'on est meilleur, mais on va laisser les tribunaux décider de ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est capable d'offrir une expertise aux gens qui, s'ils ont une bonne histoire, ils vont la gagner. Mmh. Alors, on a développé tout un processus pour éviter de lancer les gens vers des choses qui n'aboutiront pas. Donc, dans tous les dossiers, on va évaluer avant. Si on est avec des experts, si on a les éléments qu'il faut pour poursuivre, si on les a pas, on va dire aux gens, perdez pas votre temps. Et si on les a, on va dire, allez-y. On a un taux très élevé de succès dans ces matières-là.
Alors, on revient tout de suite après. Et puis, vous avez choisi cette fois-ci Nicole Martin. Il était une fois des gens heureux.
C'est encore une chanson, peut-être pour le monde ordinaire. C'est une chanson qui traite un peu peut-être des bonheurs simples. Dans la vie, parce que dans la vie, le bonheur, c'est pas des grandes choses pour tout le monde. C'est souvent des petites choses, le quotidien. Mm-hmm. Les joies simples qu'on peut avoir aussi. Puis, je trouve que cette chanson-là, qui a aussi un brin de nostalgie aussi, est aussi une chanson d'espoir aussi.
Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours, et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et clair et juste et merveilleux. Un univers béni de Dieu, il était une fois des gens heureux, c'était en étant plus silencieux.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à nous écrire en nous posant la question sur la loi 10 et la loi 20. J'ai l'impression, Maître Ménard, que les gens ont hâte d'avoir vos commentaires là-dessus. Mais on va y aller, on va en parler peut-être vers la fin de l'émission. Avant, il y a eu quand même, on va dans l'ordre des choses, il y a eu énormément de dossiers. Je tiens à dire que vous avez dit, un, plus démuni va pouvoir m'avoir comme avocat. Ça, c'est vraiment...
Je dirais que c'est un principe de fond de notre action.
C'est ça.
Nous, ce qu'on veut, c'est que... Regardez, dans le système de santé, comme je vous le disais, malheureusement, les gens ne sont pas toujours traités comme ils devraient l'être. Mm-hmm. Il y a des gens plus démunis qui ne sont peut-être pas traités au même degré que les gens qui sont capables de se défendre par eux-mêmes. Et nous, la règle qu'on s'est imposée de façon absolue, c'est que quiconque n'est pas bien traité dans le système de santé pourra toujours compter sur nous pour le défendre, le représenter, puis éventuellement rechercher l'imputabilité des gens qui ne l'ont pas bien traité. Donc, on n'a jamais fait de l'argent un obstacle. On ne finance pas d'emblée les histoires qu'on fait parce qu'on n'est pas capable de faire ça au point de vue affaires. C'est une mauvaise approche au point de vue éthique aussi. Mais on a fait en sorte qu'au fil des années, en développant des moyens originaux, si on veut, pour permettre de favoriser l'accessibilité, on n'a jamais mis d'or un client pour des raisons d'argent lorsque les gens ont des bonnes histoires. Puis ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, le plus mal pris des citoyens du Québec, s'il n'est pas bien traité, on sera ses avocats.
Alors, vous voulez améliorer les recours aux victimes qui ont été, bon, avec les fautes médicales. Hein, qui ont, oui. Alors ça, c'est vraiment là-dedans. Beaucoup de dossiers, dont notamment le CHSLD Saint-Charles-Borromée. Vous êtes sorti, racontez-moi un petit peu comment vous êtes senti et comment ça s'est passé dans cette période, parce que c'était chaud et ça bougeait, là.
Oui, alors, écoutez, c'est une séquence qui a duré peut-être à peu près 12-13 ans au total.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est le premier recours collectif autorisé contre un hôpital. Une fois que les recours étaient autorisés, là, on guérilla a pu finir de la part de l'hôpital pour tout contester. Autant au niveau de l'accès à l'information, les interrogatoires, tout, c'était une bataille qui n'en finissait pas. En 2003, une fois pendant que le recours était actif, est sorti l'histoire d'une patiente dont les deux sœurs avaient caché un micro sur son matelas qui était harcelé par deux préposés. Mm-hmm. Qui avait une sanction bonbon. C'était ça. Alors, suite à ça, on avait donc demandé la mise en tutelle de l'établissement. Ouais. Le directeur général était disparu. On l'avait retrouvé, s'est suicidé dans cette période-là, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre action, là. Bon, mais par ailleurs, le ministre, à l'époque, avait demandé une enquête un peu plus approfondie. Ça avait conduit à la mise en tutelle de l'hôpital de CHSLD. Et là, le fond de l'histoire était vraiment bien sorti, là. C'était vraiment un milieu de maltraitance. Avec toutes sortes de pratiques qui n'avaient pas de bon sens, c'est mieux qu'ils étaient désorganisés au niveau des soins, pas de respect pour les personnes, touchant l'ensemble des facettes de leur activité, autant au niveau des qualités des services médicaux que de l'hygiène, que des loisirs. Alors donc, ça s'est terminé par un règlement court, qui est le plus important règlement de l'histoire au Canada en matière de maltraitance. On a eu 8,5 millions pour l'ensemble des résidents, ce qui est excellent. Et sauf qu'on aurait pu régler financièrement beaucoup plus vite. On a pris du temps avant de régler parce qu'on a dit non, on ne règle pas juste financièrement, on va régler quand les conditions de vie seront revenues à un niveau qui est satisfaisant. Donc, on a exigé qu'on revoie tous les protocoles, vérifier après leur application, les tableaux de bord, tout ça, pour être capable de s'assurer, garantir à la population, là, OK, à Saint-Charles, maintenant, c'est vivable pour les personnes et... On est très, très, très contents de ça.
Comment vous vous sentez? Parce que ça vous êtes sorti, d'ailleurs, vous avez votre pratique, mais également, vous ne gênez pas pour sortir. Pour vous prononcer sur les dossiers de la santé, parce que vous baignez là-dedans, vous êtes là-dedans, et on dirait que vous brassez un peu les politiques.
Ce qui arrive, c'est que nous, on voit tout ça du point de vue des patients. Alors, on voit les dysfonctionnements, on voit les choses qui ne marchent pas dans le système de santé, un système qui est supposé répondre aux besoins des patients, mais qui n'y répond pas au degré où il devrait l'être. On voit les clientèles qui ne sont pas bien traitées dans le système. Alors, on a un devoir de parole. OK? On voit ces choses-là. On pourrait se limiter à faire nos dossiers, puis à faire un dossier après l'autre. Mais quand on voit des choses plus systémiques qui ne fonctionnent pas, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le crier, parce que, écoutez, ça, on voit plein de choses qui n'ont pas d'allure. C'est par exemple de ce temps-ci, par exemple, parce qu'on voit beaucoup, par exemple, on voit défiler dans notre bureau à la queue leu-leu des cas de cancer, pas diagnostiqués en temps utile. on voit les gens qui arrivent, ils sont au stade 3, au stade 4, ils vont mourir, des fois ils sont même déjà morts, c'est leurs héritiers qui viennent nous voir. Toujours avec les mêmes fautes, toujours, pendant en fait 15, 20, 25 par année, le médecin qui a presque un test puis qui n'a pas vu le résultat. Alors, il y avait un petit nodule d'apparence suspecte.
Qui aurait pu être traité.
Qui aurait pu être traité. Il n'a pas vu la biopsie. Il n'a pas vu ça. Alors, écoutez, ça, là, il ne se passe rien là-dessus. Là. Alors, écoutez, parce que les médecins, au niveau de la sécurité des soins, sont probablement les plus délinquants. Hein, ceux qui déclarent le moins les accidents, ceux qui veulent, c'est-à-dire qui participent au processus-là. C'est malheureux. Et ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on voit les drames humains à chaque fois, là. On va arriver des gens mourants ou à peu près. Les gens qui ont donné que j'en ai pour 3 mois à vivre, mais je ne veux plus que ça arrive à d'autres. Bon, c'est des cas qu'on les règle toutes, là, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, comment ça fait qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ces choses-là? Puis ça, c'est une sorte, on en voit plein de toutes sortes de dysfonctionnements. Alors, on n'a pas le droit de se taire. Il faut parler pour la population, parler pour les citoyens qui ont... On a besoin d'avoir confiance dans notre système de santé. On a besoin que le système de santé soit transparent, il soit imputable, il soit responsable. Alors, c'est pour ça qu'écoutez, puis on travaille aussi beaucoup à assurer la protection du système public de santé. Parce que contrairement à ce que les citoyens peuvent s'imaginer, il n'y a rien de bon pour les citoyens dans le privé en santé. Ça opère selon d'autres critères où ce n'est pas d'abord l'intérêt du patient qui est en cause. Le privé n'est pas une mauvaise réponse sous plusieurs rapports. Aux besoins des citoyens.
Ça, vous avez fait beaucoup de sorties
là-dessus.
C'est ça.
Alors, moi, je suis défenseur. On a progressé beaucoup lorsqu'on a décidé que ce serait l'urgence et la gravité qui serait le critère d'accès au système de santé. Ils n'ont pas la capacité de payer. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière.
Alors, est-ce que le système de santé est fait plus pour les médecins que les patients?
Écoutez, le système de santé, il n'est pas fait actuellement de façon satisfaisante pour les patients. Il y a trop d'intérêts qui jouent. Puis là, si on veut parler un petit peu des réformes, je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler, mais écoutez, les réformes qu'on met de l'avant actuellement ne répondent
on
pas
va,
bien à ces choses-là.
On va y aller dans quelques minutes à la prochaine pause. Donc, vous le dites, vous le confirmez, il n'est pas fait. Mais pourquoi, d'après vous, ça ne fonctionne pas?
Bien, écoutez, il y a toutes sortes d'intérêts. Voyez-vous, la commission Rochon avait comparé le système de santé à un champ de mine. Il y a toutes sortes de lobbies. En cause d'un système de santé, il y a les syndicats professionnels, les syndicats de médecins, les syndicats des employés, il y a les administrations, il y a les compagnies pharmaceutiques, il y a toutes sortes de monde qui ont toutes sortes d'intérêts. Les seuls qui ne sont pas organisés en syndicats, ce sont les patients. Les seuls qui n'ont pas leur place à la table, là, ce sont les patients.
Alors, beaucoup les principaux intéressés.
Les principaux intéressés. Mm-hmm. La loi dit que la raison d'être du système est la personne qui requiert les services, mais la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, donc, il faut travailler, ramer un peu à contre-courant pour forcer tout ce monde-là là, à travailler en fonction des intérêts du patient.
Alors, dans d'autres pays, il y a des bons exemples. Nous, on est vraiment les derniers. Quand on va en France, par exemple, moi, je fais toujours rire mes amis en disant que le médecin arrive plus vite qu'une pizza ici. Donc, il y a quand même, ça fonctionne. Ici, c'est lamentable.
Ici, c'est parce qu'on a fait des mauvais choix. Puis, il faut être bien honnête, là, le gouvernement ne nous a pas bien représentés depuis des années dans les négociations avec les médecins. On s'est préoccupé beaucoup de satisfaire les demandes salariales des médecins, les rattrapages avec le Canada, mais on ne s'est pas occupé du rattrapage ici avec les besoins des citoyens. Donc, on a un système de santé qui est mal organisé. On a les mêmes modèles d'organisation qu'on a depuis 50 ans, qui ne répondent pas aux besoins. On a une pratique qui est beaucoup trop axée sur la rémunération à l'acte. Ça donne les résultats qu'on a actuellement, là, des soins peu accessibles. On a une pratique aussi en milieu hospitalier, où les médecins sont des entrepreneurs indépendants dans l'hôpital. Ouais. Alors, on a une direction bicéphale.
Ils cherchent ça comme des PME,
c'est
finalement.
C'est ça. Et l'hôpital n'a aucun contrôle, vraiment, ou pas beaucoup de contrôle pour organiser l'accès aux soins, la qualité de la pratique. Écoutez, ça va rendre un peu des commentaires tantôt que je vais vous faire sur le projet de loi 10 et 20, mais ça n'a pas de bon sens. Ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Ça répond aux besoins des médecins, ça, c'est clair. Aux intérêts des médecins, ça, c'est clair. Puis je dis aux intérêts, pas de tous les médecins. Je connais plein de médecins qui souhaitent que ça change aussi.
La tarification? Est-ce que les médecins, je veux dire, on compare dans les autres pays, ils sont grassement payés ici par rapport à plusieurs pays?
Mais aussi, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu tant de médecins qui n'ont jamais été aussi bien rémunérés. Puis on s'aperçoit que ça coïncide avec une diminution de l'offre de services. Il faut se comprendre, c'est que le gouvernement il a augmenté, bonifié beaucoup le salaire des médecins, qui fait que si on vous demande, si vous avez le choix de travailler 4 jours ou 5 jours pour faire le même salaire, si vous êtes capable de faire en 4 jours, vous allez travailler 4 jours. Alors, on a bonifié, mais sans se demander voir est-ce que ça va répondre. Est-ce qu'il faut suivre aux médecins pour répondre aux besoins des citoyens? La réponse, c'est non. L'idée, c'est que c'est l'État qui est le payeur, mais il faut que l'État demande plus d'imputabilité, ait un mot à dire sur l'organisation des soins. Tu sais, je veux dire, c'est comme... est-ce que n'importe qui peut décider d'aller enseigner à l'université? Non, il y a un nombre de postes limité. Et puis, on choisit pas les matières qu'on enseigne nécessairement. C'est-à-dire, on n'enseigne pas ce qu'on veut n'importe quand, n'importe comment. Alors, pourquoi est-ce que la pratique médicale est aussi large que ça, alors que c'est l'État qui paye? On paye sans demander de compte, sans imposer de normes. Alors, je pense que pour les citoyens n'en ont pas pour leur argent actuellement, bien clair.
Est-ce qu'on pourrait réorganiser avec peu de frais? Je pense à l'Ontario, par exemple, où les CHSL, pas les CHSLD, mais les cliniques externes sont ouvertes très tard. Ça, et nous, on en est toujours à fermer à 5 heures.
Écoutez, il faut arrêter de mettre de l'argent dans le système de santé. Le système de santé n'a pas besoin d'une scène de plus. OK? C'est de l'argent dans le système qui est mal dépensé, va pas là où ça devrait aller. Il y a des choses qu'on paye beaucoup trop cher dans le système. Écoutez, puis il y a vraiment des choses à regarder, à revoir, là. C'est un puits sans fond. Si on pense que mettre un milliard de plus va régler le problème, non. Mais il faut l'organiser autrement. Il faut demander plus d'imputabilité. Il faut avoir des indices de performance un peu plus sérieux.
C'est plus qu'une mine, alors, un chantier de mine?
Bien, c'est-à-dire, c'est une mine d'or pour certaines personnes, par ailleurs. OK, c'est pas les mines qu'on imagine, c'est ça. Mais regardez, pour les patients, là, c'est clair qu'actuellement, écoutez, on a arrêté complètement le virage vieillissement. On est passé à côté. On donne pas des bons... On ne réussit pas à donner des services suffisants en santé mentale. En déficience intellectuelle, l'accès aux soins est catastrophique. On
et
a plein de
problèmes,
même, c'est ça. Ouais. Et pourtant, on augmente de façon considérable la masse monétaire qu'on paye aux médecins sans avoir plus de services.
Alors, on va tout de suite à votre choix musical. Vous avez donc choisi Gilles Vigneault, « Quand vous mourrez de nos amours ».
Ça, c'est une vraie chanson romantique.
Mais vous êtes romantique.
On va laisser les autres les uns.
Quand vous mourrez de nos amours, j'irai planter dans le jardin fleurs à fleurir de beaux matins. Moitié métal, moitié papier, pour me blesser un peu le pied. Mourir de mort très douce, qu'une fleur pousse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai sur l'air de ce temps chanson chanteuse pour 7 ans. Vous l'entendrez, vous l'apprendrez, et vos lèvres m'en sauront gré. Mourrez de mort très lasse, que je la fasse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai 2 livres si beaux qu'ils nous serviront de tombeau, et m'y coucherai à mon tour, car je mourrai le même jour. Mourrai de mort très tendre à les attendre. Quand vous mourrez de nos amours, j'irai me pendre avec la clé au crochet des bonheurs bâclés, et les chemins par nous conquis, nul ne saura jamais par qui. Mourrez de mort exquise, que je les dise. Quand vous mourrez de nos amours, si trop peu vous reste de moi, ne me demandez pas pourquoi. Dans les mensonges qui suivraient, nous ne serions ni beaux ni vrais. Mourrez de mort très vive, que je vous suive.
Nous sommes en direct avec Maître Jean-Pierre Ménard, et voici le temps de vous prononcer sur les projets de loi. Vous n'avez pas hésité à le faire. Je vous cite pour au sortir de l'adoption suite à un bâillon au gouvernement. Vous avez dit ça va beaucoup plus loin qu'une simple réforme de structure. On recule en matière de transparence, d'indépendance du réseau et d'imputabilité.
Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'avec la projet de loi 10, on crée d'abord des immenses structures qui vont éloigner le citoyen du contrôle direct, par exemple, de l'hôpital sur son territoire. Par exemple, dans une ville comme Saint-Hyacinthe, l'hôpital de la rue Mercier, ça devient une installation physique. Seulement, c'est plus une entité qui a une imputabilité envers sa communauté. Pareil pour l'ensemble des hôpitaux un peu partout, pareil pour l'ensemble des institutions un peu partout. Donc, dans ce contexte-là, la population y perd quelque chose. Ça, c'est clair en termes de contrôle par le milieu.
Parce qu'il ne peut plus choisir, quoi.
Ben, parce que c'est tout est décidé dans des hyperstructures, là, ou contrôlé par le ministre. C'est le ministre qui va nommer au départ tout le monde sur les conseils d'administration. Et selon. Alors, évidemment, qui se donne des pouvoirs de contrôle extrêmement importants sur l'ensemble du fonctionnement du réseau, qui fait qu'on peut se demander au niveau local quelle sorte de prise on peut avoir. Puis pour les citoyens, d'après moi, ça ne répond pas du tout aux besoins, parce que même si on disait que le projet de loi allait favoriser l'accès, la sécurité, la qualité des soins, il n'y a eu rien dans le projet de loi qui permet ça, de penser ça. Il n'y a pas d'autres articles qui supportent ces choses-là. Et par ailleurs, l'expérience qu'on a des fusions depuis 2003. En 2003, on a fusionné beaucoup d'établissements pour former les centres de santé et de services sociaux. Ça l'a plus diminuer l'accès aux services. On a fusionné plein d'affaires, on a réduit le personnel, on a mis les points de service un peu plus loin de la clientèle aussi. Donc, pour les services de proximité, les fusions, ça a été mauvais. Tout le monde s'est documenté, même le ministère l'a écrit. Et là, on fait encore plus gros. Alors, je pense que malheureusement, il n'y a rien pour les citoyens dans le projet de loi 10. Intéressant pour le ministre, il va avoir le réseau à sa main totalement.
Donc, rien pour les patients, quoi.
Mais pour les patients, là, j'ai beaucoup de misère à percevoir où est l'intérêt des patients. Puis en plus de ça, on va affecter considérablement le droit des patients de choisir maintenant leur établissement, parce qu'il n'y en a presque plus d'établissements. C'est un CI3S, Centre intégré de santé et de services sociaux, immense. Mais à l'intérieur de ça, l'établissement peut faire n'importe quoi, peut passer les gens n'importe où. Et c'est clair qu'il s'est perdu quelque chose pour les citoyens. Là, on va le voir malheureusement à l'usage.
Alors, vous avez écrit une lettre dans le devoir au ministre. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire?
Bien, écoutez, pensons-y pour les patients. Là, il faudrait qu'on revoie un peu les droits des patients dans ce contexte-là, peut-être pour mieux les protéger contre les effets peut-être néfastes d'une fusion comme ça, parce que pour les patients, il y a une dilution de leurs droits. Et on ne répond pas à un certain nombre de besoins au niveau de l'accès aux soins. Là, on n'a rien gagné à peu près là-dedans. Là. Malgré les discours, je dirais, politiques, là, quand on regarde du point de vue des patients, on s'aperçoit que ces mesures-là, il n'y a rien pour les patients là-dedans. C'est un débat qui se fait malheureusement au-dessus de la tête de la population. On fait ça avec des clips. On pense, ah, écoutez, le système va nulle part et tout ça. Là, bon, il fallait le changer. Il fallait sauver le panier de services. Le projet de loi 10 ne sauve aucun service. Au contraire, on ne fera pas d'économie là-dedans. Ça, c'est clair, clair, clair.
La loi 20, ce n'est pas passé. Vous proposez de retirer ce projet. Alors, quels sont vos espoirs et qu'est-ce que vous voulez dire encore au gouvernement?
Écoutez, l'idée d'imposer des quotas aux médecins, bon, d'une part, on a fait ça sans analyse de l'impact de ça. On a fait ça aussi, on a présenté un projet de loi où la substance du projet de loi, elle n'est pas dans le projet de loi. On dit, dorénavant, les médecins vont se faire imposer un quota qui sera déterminé par des règlements qui vont être publiés plus tard, qui vont déterminer ça sera quoi, qui imposera aux médecins l'obligation de suivre un certain nombre de patients. Ce que veut dire l'obligation de suivre, on ne le sait pas, on va le savoir plus tard, dans des règlements qui ne sont pas publiés. Mmh. Donc, difficile de débattre de ça, mais le ministre s'est entrouvert un peu sur ce que c'est l'obligation de suivre. Essentiellement, c'est que ça va obliger un médecin à répondre dans un délai précis, disons, sur 12 heures, à toute demande d'un patient qui est sur sa liste, qui voudrait le voir. Ça, là, on pense que l'effet pratique de ça, ça aura pour effet que les médecins, dans leurs 1000 patients qu'ils vont devoir suivre, vont préférer prendre des patients qui ne les solliciteront pas trop souvent pour éviter d'être pénalisés financièrement s'ils ne peuvent pas les voir.
Il va y avoir une espèce de profilage, là, à ce niveau-là.
Ben, c'est ça, puis ça ne répondra pas aux besoins. En termes d'accès, c'est pas des bonnes approches. ça ne répondra pas. Du point de vue des patients, on ne connaît pas comment ça va affecter les droits des patients. Ça serait important, et les ministres manquent vraiment de transparence à cet égard-là. Mmh. Il faudrait qu'on sache un peu plus qu'est-ce que tout ça va donner aux patients. Parce qu'écoutez, tout le monde est pour qu'on fasse des changements. Quand on dit on veut améliorer l'accessibilité aux soins médicaux, 100% des gens sont pour. Mmh. Mais quand on regarde les moyens qui sont proposés ici ne sont pas bons.
Alors, et donc, vous avez l'espoir de faire changer les choses?
Minime, parce qu'écoutez, il y a beaucoup de monde qui s'y oppose. Mais du point de vue des patients, écoutez, ces procédures-là ne répondront pas bien aux besoins des patients. Mais malheureusement, il risque fort d'être adopté parce que le ministre n'écoute pas beaucoup. Et on va vivre avec ça. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il faut d'accord travailler sur... qu'est-ce qui va arriver après?
On va aller sur une note plus positive, la législation sur les soins de vie. Donc, ça a avancé. Le Québec a été précurseur en proposant et en travaillant, d'ailleurs, avec tous les partis confondus. Mmh. Et là, on a eu, la semaine passée, quand même, quelque chose de très beau qui s'est passé à Ottawa. La Cour suprême qui dit que d'aller de l'avant, finalement.
Voyez-vous, tout ce qui a entouré le processus de la loi concernant les soins de fin de vie, écoutez... c'est peut-être un beau miroir de société. Comment se fait-il qu'on est capable de temps en temps d'avoir des élans de notre société là, pour faire des choses de même, puis qu'on n'est plus capable de les répéter après? T'sais, là, on a une réforme qui se fait dans le système de santé à coups de poing sur la table, puis à coups d'insultes à gauche, à droite, alors qu'on a fait un débat extrêmement serein. Au Québec, on a écouté la population, on a pris le pouls, on a senti, c'était quoi les attentes de la population. On a travaillé après ça à esquisser un projet de loi qui répond bien, qui se modèle à ces attentes-là.
Qui va rentrer en décembre prochain.
Qui va rentrer en vigueur au mois de décembre. Ouais. Et moi, j'ai été impliqué très peu dans ce processus-là. On avait dit à Québec, écoutez, vous avez un corridor constitutionnel qui vous donne le pouvoir de le faire. Des gens doutaient quand même de ces choses-là. Puis d'ailleurs, la loi était attaquée devant les tribunaux sous cet angle-là. Mais la Cour suprême est venue nettoyer cette hypothèque-là en disant, oui, l'aide médicale à mourir, il y a une composante qui est compétence provinciale, ça a réglé ça. Puis la Cour suprême a dit aussi, les restrictions du code criminel sont excessives, contreviennent à la charte pour tout ce qui touche l'aide médicale à mourir. Donc, le citoyen qui est dans ces conditions-là, en vertu de la charte, son droit à la liberté, son droit à ce que cette personne, son droit à la vie, a le droit d'avoir ses... accès à ces procédures-là sans que ceux qui lui donnent risquent d'être poursuivis dans le code criminel. Alors, c'est une grande victoire pour les patients.
Aussi grand que l'avortement dans les années 80.
Je vous dirais peut-être encore plus grande parce que, écoutez, l'avortement, ça touche au mieux la moitié de la population, puis un nombre encore plus réduit, donc les femmes en âge de procréer, mais les soins de fin de vie, ça nous touche tous. On n'a pas le choix, là. Si on est condamné à passer par là.
Alors, on finit sur note positive. Et aussi dire, parce que j'aimerais en parler en quelques secondes seulement, c'est que votre cabinet a quelque chose d'assez particulier. Il y a une infirmière qui est là pour répondre ou qui s'occupe du dossier. C'est très, très organisé.
Vous, voilà. On fait du droit médical, alors écoutez, on a une... une série d'organisations pour nous donner accès. On a une série d'experts aussi. On a une équipe, pas une, on a une équipe d'infirmières. On a en plein une équipe d'autres aussi.
Écoutez, donc, la personne appelle, la première chose...
Non, on ne donne pas de consultation. Les infirmières ne donnent pas de consultation publique.
Non, c'est ça. Elle appelle et puis tout de suite après, il y a une conversation.
C'est-à-dire pour les citoyens qui veulent...
C'est ça, exactement.
Comment vous pensez que le citoyen qui a besoin de... Je pense qu'il y a un problème avec le système de santé, téléphone chez nous, et il y a un avocat qui va la rappeler.
En 24 heures.
Dans 24 heures, normalement. Puis on va voir, a priori, si ça vaudrait la peine qu'on regarde ça plus loin un peu. On va se donner des conseils. Puis évidemment, on se sert beaucoup maintenant de notre site Internet aussi pour donner des conseils.
Alors, votre site Internet qui donne des conseils...
Ce qui arrive, c'est qu'écoutez, on a mis ce site en ligne il y a à peu près 3 semaines. Mm-hmm. OK? C'est un site qui vise vraiment à redonner du pouvoir aux citoyens, faire de l'empowerment, comme on dit en bon québécois. Donc, ce qui explique aux gens leurs droits par rapport au système de santé et qui tente d'apporter le plus possible de réponses.
Et qui s'appelle vosdroitsensante.com.
C'est ça, vosdroitsensante.com. Le site est gratuit, accessible tout le temps. Puis c'est fait vraiment pour... On a vraiment tenté de redonner aux citoyens l'information qui peut leur être utile.
Alors, on revient tout de suite après, quelques notes musicales et on va aller en les questions en rafale, le questionnaire avec vous. Maître Ménard, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Bon, écoutez, j'ai été malheureusement aux funérailles d'une des grandes dames de ma vie en fin de semaine, Mme Paulette Bertion, qui est une personne, la mère d'un jeune adulte déficient. Puis, dès le début de ma pratique, c'était à Rivière-des-Prairies, c'est cette dame-là qui m'a ouvert peut-être vraiment les yeux avec d'autres de ses collègues sur le sort des personnes plus vulnérables. En 1981, je commence à pratiquer, 1982. Et c'était une influence déterminante dans ma vie. Me fait comprendre un peu toute la dignité qu'il y a à s'occuper des gens vulnérables, à quel point c'est valorisant, même si c'est archi-difficile. Il n'y a peut-être pas de plus belle cause que celle-là.
Vos mentors?
Mes mentors, ça va vous paraître drôle, mais pour une partie, ça a été mes adversaires. Ils étaient tellement bons. Je me disais, tabarnouche, si on veut, si moi je veux faire de quoi avec ma pratique, ma carrière, il faut que je sois meilleur que eux autres. Alors, c'était une stimulation extrême de voir à quel point ces gens-là avaient du talent. J'en ai eu plusieurs, puis j'ai découvert que j'admirais. Je ne vais pas leur dire trop fort publiquement. Mais, écoutez, ça nous amène à nous dépasser. Moi, je vais admirer toujours les gens qui vont me forcer, moi, à me dépasser, à être meilleur, à donner un petit peu plus.
Les livres que vous nous recommandez?
Bon, écoutez, moi, je n'ai pas un livre en particulier parce que je lis beaucoup. Moi, je suis mordu de géopolitique, d'histoire. Écoutez, j'ai à peu près un pied d'épée de livres de chevet sur ma table le soir pour lire. Et je m'intéresse beaucoup, beaucoup. Il faut comprendre le passé pour pas le répéter aussi.
Voilà.
Et chercher à comprendre donc notre histoire, l'histoire du Québec, l'histoire du monde.
Alors, donc, vous êtes un passionné d'histoire. Les artistes que vous aimez?
Bon, écoutez, j'aime beaucoup les artistes québécois, peu importe lesquels. Je trouve qu'on a une culture extraordinaire ici, qui est portée par des gens avec des talents incroyables. On est une petite société, mais avec un potentiel culturel absolument extraordinaire. Je pense que je ne suis pas capable de vous dire un artiste du Québec que je n'admire pas.
Les villes que vous nous recommandez?
On va rester au Québec. J'adore la ville de Québec. Quelle belle ville touristique, quelle ville qui a une ambiance, une belle ambiance aussi. Si on veut sortir du Québec, j'aime beaucoup Paris, Amsterdam, Les grandes villes, moi, j'aime beaucoup les grandes villes. Londres, Rome. Alors, je me suis promené beaucoup. Mais on est bien chez nous aussi. Montréal est une belle ville aussi.
Merci beaucoup, Maître Ménard. Merci d'avoir passé une heure avec nous.
C'était un plaisir pour moi.
Et merci à mon équipe, à la réalisation de l'émission Jean-Sébastien La Liberté, recherche Christiane Campagna et aux médias sociaux Claudia Benoît. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!